La Pologne, je ne connais pas la Pologne. Alors, c'est vrai qu'au début de l'année, le Seigneur m'avait dit deux choses, dont une, cette année, tu iras dans des endroits où tu n'as jamais été avant. Alors, il se trouve qu'à la fin janvier, je me suis rendue à cette conférence des serviteurs de Dieu à laquelle je me rends tous les ans aux États-Unis. Et puis donc, ça a un peu correspondu avec mon retour de cette conférence. Ce qui veut dire que quand je reviens, j'ai un bon tas de courriers à dépouiller. Et puis parmi ce courrier-là, il y a des journaux, des lettres de nouvelles, parce que je reste vraiment en contact avec la communauté juive. Et là, je me suis rendu compte que le 27 janvier, c'était la journée de la mémoire, du devoir de la mémoire. Donc, les mots camp de concentration, nazi, Allemagne, Shoah, Holocauste sont des mots qui sont beaucoup revenus, aussi bien dans ces journaux de la communauté juive que dans les journaux en général. Alors, il faut savoir que cette journée du 27 janvier, là, les ministres européens de l'éducation ont adopté le 18 octobre 2002 la déclaration qui institue une journée de mémoire de l'Holocauste et de prévention des crimes contre l'humanité. Et la date a été laissée libre au choix de chaque pays. Et il se trouve que la France et l'Allemagne ont choisi le 27 janvier. Pourquoi ? Parce que le 27 janvier, c'est la libération des camps de Auschwitz et Birkenau. Donc, il y a vraiment un lien étroit entre le choix de cette date en France et en Allemagne et un fait historique. Alors, quand on entend parler de l'Holocauste, je vous l'ai déjà dit, mais pour les personnes qui sont parmi nous pour la première fois, il faut savoir que c'est un nom que les Juifs n'emploient jamais. Quand ils parlent des crimes organisés, des assassinats organisés, pour les Juifs, mais également, il n'y a pas que les Juifs, il y a à peu près 3, je ne dis pas le chiffre peut-être, plus de 3 millions de Polonais qui sont morts dans les camps, des camps qui étaient des camps de concentration qui sont devenus des camps d'extermination. Déjà, camp de concentration, ce n'est pas très joli à entendre parce que c'est vraiment concentré. On amasse les gens, on les entasse là, peu importe les conditions d'hygiène. Et puis, ce sont devenus très rapidement des camps de concentration avec une véritable stratégie de la mort. C'est-à-dire que les gens, une fois qu'ils étaient arrêtés, le but ultime, c'était de les faire disparaître en sachant qu'on ne peut pas juste faire disparaître des gens, c'est-à-dire les tuer. Une fois que le corps est là, il faut après savoir ce qu'on va en faire. Donc jusque-là, la stratégie d'extermination d'abord des Polonais, puis ensuite particulièrement ciblée les Juifs. Et il y a eu également les homosexuels, il y a eu les gitans, j'ai le mot qui me revient en anglais, c'est 3 semaines que je parle anglais. Il y a eu les Roms, il y a eu les handicapés, il y a eu les gens gravement malades. Enfin, il y a eu vraiment une extermination. Mais ça s'est à un moment entièrement concentré sur la population juive. Alors, quand... peut-être pas maintenant, merci. Et donc, quand... à la fin, donc moi, je reviens de cette conférence-là, et puis il y a tous ces mots-là, Holocauste. Et pourquoi on n'emploie pas le mot Holocauste ? Parce que le mot Holocauste est un terme biblique, et un terme biblique qui parle d'un sacrifice offert à Dieu. Or, aucun ne s'est offert lui-même. Aucune personne qui a terminé dans les crématoriums ne s'est offerte de bonne volonté. Et puis ensuite, c'était certainement pas au Dieu d'Israël. Parce que le Dieu créateur de la terre et de l'univers ne réclame pas des sacrifices humains. Même le sacrifice pour nos péchés, il ne l'a pas réclamé. Et il a donc envoyé Jésus parce qu'il fallait que ce soit le don d'une vie et d'une vie innocente qui a payé pour nous tous. Et donc, le mot holocauste est un mot qui hurle dans les oreilles de n'importe quel juif, et j'aimerais que ce soit dans les oreilles de n'importe quel chrétien. C'est-à-dire que c'est un mot que l'on bannit de notre vocabulaire quand on parle des atrocités de la dernière guerre mondiale. Donc, quel est le mot qui est employé ? Eh bien, c'est un mot hébreu, Shoah, qui veut dire catastrophe et ruine, puisque c'était de cela dont il s'agissait. Alors, à force d'entendre cela, bon, j'avais déjà pensé, ben, tiens, il faudrait peut-être aller voir les camps. Mais bon, je dois dire que je n'avais pas le courage d'y aller. Étant jeune, je me souviens avoir vu des gens avec des chiffres tatoués sur les bras. Et ça n'est pas... Dieu ne tatoue pas les corps comme cela. En revanche, les corps tatoués, eh bien, sont un signe d'appartenance dans le but de faire perdre l'identité. J'ai encore réfléchi à ça quand j'étais là-bas, à savoir que plus les témoignages que j'ai entendus des gens qui acceptent le tatouage, c'est qu'ils en veulent un et ça devient une addiction. Puis après, ils en veulent un, puis après, ils en font un plus grand pour effacer le dessin qu'ils ont mis et qu'ils n'aiment plus. Donc, ils font un dessin plus grand, un dessin qui va englober le premier tatouage. Et puis, à force de voir des gens qui se tatouent, y a une chose que je remarque. Finalement, ils se ressemblent tous, les gens. Et puis, non seulement ils finissent par tous se ressembler, mais c'est un moyen de faire disparaître l'image de Dieu que chaque être humain porte. Et ça, c'est la stratégie ultime qui est derrière tout cela. Alors bon, si vous avez déjà fait un tatouage, vous savez, le Seigneur vous pardonne. Ça, c'est une chose. Il dit de ne pas le faire, tout comme il nous dit de ne pas nous tourner vers les sorciers et les devins. La phrase d'après, c'est de ne pas marquer notre corps. Il ne veut pas que notre corps appartienne à quelqu'un, parce qu'on n'est pas du bétail, on n'est juste pas cela. Donc il y a le sang de l'agneau, gloire à Dieu. Mais en tout cas, si l'idée venait d'en ajouter un autre ou juste d'en faire un, écoutez, pensez à ce que cela représente. Et puis, dès ce retour donc de la conférence pour serviteurs de Dieu, je me suis dit, bon, tiens, l'idée m'est venue, et si j'allais voir ces camps. Bon, pas folle la guêpe, je n'y vais pas seule non plus. Donc, je me suis dit, bon, il y a peut-être d'autres personnes. Alors, évidemment, je pense à l'équipe pastorale tout de suite. Et puis après, je me suis dit, tiens, il y a Billy qui arrive. Docteur Billy Brim, qui est tellement versé dans tout ce qui est eschatologique. Et si je lui demandais, son voyage n'était pas encore, l'itinéraire n'était pas encore terminé. Donc, je me suis dit, tiens, je vais lui demander. Et puis, je me suis dit, bah, elle ne voudra pas. Elle est tellement occupée, elle a tellement de choses à faire. Elle ne voudra pas. Et puis, aux surprises, la réponse était oui. Oh, alors, ça m'a fait un peu peur, parce que du coup, maintenant, je me suis engagée. Vous savez, quelquefois, vous mettez le doigt dans l'engrenage et après, vous dites là, vous dites, qu'est-ce que je fais ici, moi ? Vous êtes déjà arrivé ? Et puis, bon, OK. Et ben, nous voilà partis. Donc, il est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup appris, beaucoup lu, parce qu'une chose que je me suis dite, c'est qu'il faut que je me prépare à aller là-bas, parce que j'entends tout le monde en parler, et ce que j'ai vu, ne serait-ce que dans des documentaires ou quoi, franchement, c'est difficile à supporter pour un être humain normal. Et me considérant dans la catégorie des normaux, je me suis dit... Donc j'ai demandé, j'ai cherché auprès de la communauté juive, est-ce que vous avez des recommandations à faire ? Est-ce qu'il y a des guides que vous pourriez nous recommander et tout cela ? Et oui, ils l'ont fait. Et on a eu vraiment un guide qui était exceptionnel. C'est-à-dire que je ne me voyais pas accompagner Dr Billy Brim et sa fille et puis arriver là-bas et dire, bon, alors on fait quoi ici ? C'était pas du tout cela, donc il fallait que tout soit organisé et j'ai fait des recherches correspondantes. Et puis, on a eu la... Vous avez mis l'image de la Pologne ? l'image de la Pologne. Voilà. Alors, Cracow, peut-être que vous le voyez, c'est juste au-dessus du SMO Slovaquie. Vous voyez la Slovaquie tout en bas et au-dessus Cracovie. Donc, c'est tout à fait dans le sud. Donc, on a appris que au XIIIe siècle, le roi voulait vraiment redonner donner un essor économique, artistique à son pays. Et il a fait appel à l'élite en Europe. Et l'élite en Europe, et bien notamment, parmi cette élite, il y avait des Juifs. Et comme il avait fait appel, beaucoup sont arrivés en Pologne et ont tout de suite pu contribuer au bien-être du pays. Et puis l'histoire a beaucoup changé, beaucoup changé, beaucoup changé. Donc vous imaginez à quel point les Juifs tiennent à ce pays de Pologne. Ils n'étaient pas juste de passage, et puis c'était devenu leur terre. Donc ils tenaient à ce pays et ils étaient les bienvenus. C'est ça le contexte. Les choses ont beaucoup changé. Et puis, un jour, l'Allemagne, à l'est, envahit la Pologne. 15 jours, à l'ouest, pardon. Et puis, 15 jours plus tard, la Russie envahit la Pologne. Et là commence... Alors, pourquoi est-ce que l'Allemagne... On a appris beaucoup de choses. Moi, j'ai eu beaucoup de réponses. Il se trouve que l'Allemagne voulait prendre la Pologne, exterminer tous les Polonais. Pourquoi ? Pour étendre son territoire afin d'augmenter l'étendue des terres agricoles, devenir un pays puissant et devenir un pays uniquement avec la race aryenne. Donc, combien de blonds aux yeux bleus a-t-on ici ? Une ? Oh, Pascal, juste, tu veux la limite. Y a une petite, on ne sait pas trop, on va le voir quand elle aura des cheveux. Et puis il y en a, bon bref, trois, mettons quatre, ouais, quatre, cinq, six, ouais. Bon, enfin bref, ce n'est pas la majorité. Ça veut dire que Guy a levé la main. Ce qui veut dire que la grande majorité d'entre nous aurait disparu. C'est aussi simple que cela. Et n'oublions pas que Hitler voulait établir le Troisième Reich, c'est-à-dire 1000 ans de prospérité aryenne. Il ne serait pas seulement contenté de la Pologne, vous comprenez cela. Il aurait étendu aussi loin qu'on lui aurait permis. Donc cette journée du 27 janvier, qui revient tous les ans, est extrêmement importante. Il y a ce devoir de mémoire. Il y a un sociologue français, alors je ne suis pas sûre de la prononciation de son nom de famille, Maurice Alpvarsch, je sais pas ça, qui parle de la mémoire collective et qui affirme « on ne se souvient jamais seul ». Alors, le devoir de mémoire est une expression qui désigne une obligation morale de se souvenir d'un événement historique tragique et de ses victimes afin de faire en sorte qu'un événement de ce type ne se reproduise pas. Cette notion est apparue dans les années 90 à propos de la Seconde Guerre mondiale, en particulier de la Shoah, et elle s'est élargie à d'autres épisodes tragiques de l'histoire. Et quand il s'agit d'une mémoire collective, eh bien cela veut dire que il y a un pays, les chefs d'un pays, les dirigeants d'un pays, qui reconnaissent la culpabilité, la responsabilité qui doit être assumée par un pays d'avoir ou laissé faire ou participé à un événement tragique, à un génocide ou autre. Et M. Chirac l'a fait pour la France. Et à la surprise générale, en février dernier, eh bien, la Pologne a décidé de mettre en place une loi qui interdirait à toute personne de parler des camps de concentration polonais et qui dit que n'importe quelle personne qui dit que les Polonais ou l'État polonais est responsable de ce qui s'est passé en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale risque jusqu'à 3 ans de prison. Alors bon, il y a un grand problème avec cela, c'est un, la liberté d'expression, et puis de deux, est-ce que la Pologne était complètement innocente. Est-ce que la Pologne... Alors évidemment que, par exemple, quand il y a le camp d'Auschwitz, je pense que vous avez une image là, vous avez, voilà, ce que l'on voit ici, les lettres sont écrites en allemand, et cela veut dire « le travail rend libre ». Alors, ils étaient embarqués là. Vous savez, une des choses qui m'a marquée pendant cette... je dois dire que... Alors, il y a ce que l'on vit, ce que l'on entend, ce que l'on lit sur le moment. Et puis, il y a ce que l'on ramène avec nous qui fait qu'on n'est pas encore trop remis, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose qui pèse. Je dois dire que pendant ce temps-là à Cracovie, Cracovie est juste à une heure de Auschwitz et Birkenau. Hein. Donc, on était logé à Cracovie. On a choisi d'être logé dans le quartier juif intentionnellement parce qu'on voulait entendre. Et grand bien nous en a pris parce que on a pu prendre le temps avec notamment une libraire qui était là, qui était un puits. C'est une dame qui est architecte, pas historienne, mais qui pourrait être historienne parce que c'est un puits de connaissances. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire là ? Il y a plein de choses qui se bousculent dans ma tête. Donc, quand on était là, et puis on s'est dit, bon, on était déjà dans cette ambiance de camp d'extermination, pas seulement de concentration. Et puis là, la nouvelle est tombée concernant le bâtiment sur lequel vers lequel nous avions les yeux, au 45 rue Smollett, pour l'église, vous vous rappelez ? D'accord. Vous vous rappelez que... Oui, d'accord. Eh bien, il se trouve que j'ai été attristée de savoir que le propriétaire a choisi quelqu'un d'autre. Donc, nous n'aurons pas ce bâtiment. Ça veut dire que, jusqu'à présent, à chaque fois qu'on nous a refusé un bâtiment, un meilleur s'est présenté à nous. Donc, je ne sais pas jusqu'où veut aller le diable, mais tant pis pour lui. Une chose que je sais, c'est que l'Église est dans la main de Dieu. C'est son œuvre. Rien ne peut nous empêcher de faire ce que nous avons à cœur. Et quand on est difficile, on ne peut pas faire de compromis. Quand on a un standing particulier, quand on croit, notre foi, elle est à un certain niveau, eh bien, c'est simple, on ne peut pas faire marche arrière, on ne peut pas faire de compromis. Donc, on va continuer, les recherches reprennent. Et puis, tout va bien. C'est aussi simple que cela. Vous dites, ouais, mais les prières que l'on a faites, Dieu se sert des prières que l'on a faites. Dieu se sert des offrandes que nous avons faites. Il n'y a rien qui est perdu. On ne fait jamais une offrande en perdant quelque chose. On fait une offrande, c'est un investissement qui va aussi loin que notre foi est active et opérationnelle. Donc, je dois dire que, prise dans cette ambiance historique et tragique, eh bien, ça a compensé, ou je dois dire, je n'ai pas eu le temps d'être aussi troublée par cette annonce concernant le bâtiment que je l'aurais été si j'étais uniquement restée ici. Et je dois dire que ça m'a aidée parce qu'elle m'a bien contrariée cette nouvelle. Mais bon, écoutez... Il se trouve qu'en entendant dire que, parce qu'on parlait, j'étais en train de parler de l'implication de la Pologne dans ces événements, c'est vrai que là on voit, je ne sais pas comment on prononce à part Arbeit, mais ça veut dire travail, le travail rend libre. À partir du moment où un juif était arrêté, il entendait des mensonges. C'est-à-dire, prenez tous vos biens les plus précieux, prenez de l'argent avec vous, prenez vos manteaux les plus précieux quand ils étaient en hiver. Ils prenaient des tableaux, ils prenaient de l'argent, etc. parce que, eh bien, ils en auraient besoin. C'était un mensonge, ils allaient être complètement dépouillés de cela. Et puis ensuite, après avoir voyagé au début, eh bien, c'était des wagons de voyageurs qui étaient utilisés. Et ensuite, ce sont des wagons à bestiaux. Et il y avait jusqu'à combien ? Une soixantaine de personnes, 70, ouais, qui étaient entassées dans ces wagons parfois jusqu'à 10 jours, ou l'hiver, ou l'été. Vous pouvez imaginer. Vous ne croyez pas que le train s'arrêtait dans une station lorsqu'il y avait un besoin à satisfaire quand même. Hein? Non. Et puis, il faut dire qu'il y avait les malades, il y avait des gens qui mouraient dans les trains, et vous ne pouviez pas dire « je vais ouvrir la porte pour aérer ». Il n'y avait pas un endroit où prendre une douche. Voilà, ça c'était les conditions d'hygiène. Il y avait les bébés qui pleuraient. Au bout de 10 jours, des bébés déshydratés avec des mamans qui tenaient le corps de leur enfant dans les bras. Alors, les gens après, ils débarquaient sur, quand c'était à Birkenau, ils débarquaient, il y avait une espèce de rampe qui avait été mise là. Et donc, immédiatement, c'était la séparation. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Et évidemment, les hommes mariés qui avaient leurs femmes avec eux, leurs enfants, disaient, mais est-ce qu'on va les revoir? Est-ce qu'on va les revoir? Autre mensonge. Mais bien sûr que oui, vous allez les revoir. Où, quand, comment? Et donc, ils voyaient la file qui partait d'un côté, et puis déjà, alors, beaucoup n'ont pas cru. Il y a notamment un rabbin qui a fait le tour des synagogues. Il y a des chrétiens qui ont fait le tour des quartiers juifs, qui ont été auprès de chefs d'État pour dire « il faut que vous réalisiez ce que vous croyez ». On a vu des photos qui ont été prises en cachette et qui sont parvenues aux États-Unis. Et quand les généraux ont vu cela au début, eh bien, c'était déjà un fait, c'était déjà quelque chose qui se passait. Ils ont vu ces photos-là, et puis elles parlaient d'elles-mêmes. C'était pas un mannequin d'un beau magazine. Hein. Eh bien, ils n'ont pas cru. Beaucoup de gens n'ont pas cru. Et ça a été, quand les gens arrivaient dans ces camps, c'était mensonge après mensonge. Ils passaient, ceux qui passaient par cette porte-là, hein, c'était mensonge, le travail vous rendait libre. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils travaillaient parce qu'on leur avait fait croire. On leur avait fait croire que s'ils faisaient cela, il y aurait telle chose. Ça a été un tissu de mensonges de A à Z. Ouais, c'était cynique. Dire à quelqu'un, bah, prenez vos biens les plus précieux, oui, amenez toute votre famille. Et puis quelquefois, ils rigolaient. Moi, je me souviens d'entendre mon père, qui avait à peu près 12 ans, pendant la guerre. Quand je dis pendant la guerre, ça passe de 39 à 45, hein, donc voilà, hop là. Et qui disait qu'il y avait un champ qui était miné, et bon, tout le monde savait, il y avait un soldat, qui était à l'entrée, soldat allemand à l'entrée, et puis quelquefois il y avait quelqu'un qui ne savait pas que ce champ était miné, mais il voulait le traverser parce qu'il savait que c'était un raccourci. Il se disait, si je passe vers là, j'aurai moins de chemin à parcourir à pied. Et il disait, je peux passer par là, et il disait, il est arrivé de voir ce soldat allemand en riant, dire, mais oui, allez, jusqu'à ce que les habitants du secteur entendent une explosion. Et donc, c'est ce cynisme-là qui est vraiment choquant. Donc, la Pologne dit, c'est pas nous qui sommes venus avec l'idée de ces camps. Ça, c'est marqué en allemand. Alors oui, c'est marqué en allemand. Néanmoins, les faits montrent clairement que la population polonaise est coupable d'actes antisémites graves. D'ailleurs, c'est tellement vrai que quand les quelques-uns ont voulu revenir ou en Pologne ou simplement de leur maison parce qu'ils avaient échappé au camp, il y avait des Polonais qui occupaient leur maison. Aujourd'hui, quand vous allez dans par exemple, le quartier juif à Cracovie, vous voyez des immeubles qui sont vraiment très sales de pollution. Et vous dites, mais il n'y a personne qui va refaire la façade. Et puis notre guide nous expliquait, bah oui, quand on aura déterminé qui doit payer la facture, parce que le titre de propriété n'est pas évident. Donc, on sait qu'il y a aujourd'hui des pays qui commencent à rendre à la population juive spoliée ce qui était rentré chez eux illégalement dans leur pays, c'est-à-dire des tableaux, de l'or, etc. Mais la Pologne est coupable. Des Polonais qui dénonçaient des familles dans des villages, dès qu'ils ont su que les Allemands voulaient les arrêter, des Polonais les ont arrêtés, les ont dénoncés, et puis sont allés jusqu'à chercher les... Après avoir pris tous les hommes, sont allés jusqu'à chercher les femmes, les enfants qui s'étaient cachés ou qui avaient été cachés. C'est arrivé que des têtes soient coupées, soient roulées par terre, des enfants embrochés sur une fosse, jetés sur un tas de charbon. Voilà. Mais M. Chirac a reconnu en ce qui nous concerne. Mais la Pologne, là, elle dit, nous, c'est pas nous, c'est les Allemands. C'est un fait. Oui, eux aussi ont participé à ces atrocités. Donc, alors, ça a soulevé un haut-le-cœur général, hein, surtout de la part d'Israël, qui dit, non mais dites, aujourd'hui, on a des survivants qui sont en Israël et qui étaient en Pologne. Alors, il faut savoir qu'à Cracovie, il y avait à peu près 67 000, certains disent 67 000, d'autres 64 000 juifs dans Cracovie et la banlieue. Et aujourd'hui, les orthodoxes disent qu'il n'y a à peu près que 200. Et le centre communautaire juif dit, non, il y en a à peu près 800. Pourquoi ? Bah, parce que tous ne sont pas pratiquants. Et donc, les orthodoxes vont dire, bah, ce sont ceux qui pratiquent. Donc, voilà la disparité des chiffres. Mais un juif sur quatre était polonais. Un habitant sur quatre était juif, je veux dire comme ça. Un polonais sur quatre était juif. À Cracovie. Donc... Est-ce que le devoir de la mémoire, le fait de se rappeler. Moi, c'est vrai que pendant un moment, je me suis dit, oh là là, on n'arrête pas d'entendre, on entend. Et finalement, en y allant, beaucoup de gens vont visiter uniquement les camps Birkenau et Auschwitz. À vrai dire, Birkenau, c'est Auschwitz 2. Il y a eu même Auschwitz 3. 40 camps en Pologne. C'était une vraie machine à tuer. Une vraie machine à tuer. Comment certains s'en sont sortis ? Ben, ce sont ceux qui étaient les plus forts, les plus débrouillards. Et puis ceux qui moralement étaient solides. Quand je me souviens en Israël, il y a bien moins de 10 ans de cela, peut-être 8 ans de cela, je me souviens d'un des voyages de Billy Brim, il y a une survivante qui est venue, puis sa fille était là, et sa fille nous disait que jusqu'il y a encore très peu, très très peu de temps, sa maman cachait son pain sous son matelas. Or, c'est une femme qui était sortie depuis 60 ans, hein, des camps. Et puis, on entend parler des survivants qui, jusqu'à aujourd'hui, ont des cauchemars à cause de ce qu'ils ont vu. Vous croyez qu'on a un problème ? Vous croyez que vous avez des problèmes dans la vie ? Finalement, même le fait qu'on n'ait pas eu le 45 rue Smolet, ce n'est pas encore un problème. Je pense qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Deutéronome, chapitre 25, versets 17 et 10 à 19. Il y est là. Alors, inutile de vous dire combien j'aimerais que l'Église La Bonne Nouvelle y aille. Que l'on prenne 3 jours et puis qu'on aille visiter un camp, qu'on aille visiter le quartier juif où on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et il faut que l'on y aille. On va peut-être comprendre un peu plus pourquoi après ce message. Deutéronome 25, 17-19 dit « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais là et épuisé. La suite. Épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Alors, verset 17 commence par « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant le voyage lorsque tu sortis de l'Égypte. » Et la fin du verset 19 dit « Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel, ne l'oublie point. » Alors, « ne l'oublie point », il se trouve qu'il y a un rabbin, ancien rabbin en chef d'Israël et le plus jeune survivant du camp de concentration de Buchenwald, qui a dit que selon la Torah, « ne l'oublie point », donc à la fin du verset 19, fait référence à ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un, tandis que « souviens-toi » fait référence aux actions qui servent à rappeler aux gens. Et ce rabbin dit, « Eh bien, pour me souvenir, mes actions ont été de raconter l'histoire. » Aujourd'hui, la Pologne ne veut pas raconter l'histoire. La Pologne veut oublier. L'Allemagne, elle, a accepté sa responsabilité et a des lois très sévères envers l'antisémitisme. Mais d'autres pays essaient de le nier. Il y a des passeports en Europe, quelque part dans la botte italienne, où des passeports ont été aux nazis pour qu'ils puissent fuir en Amérique du Sud. Il y a un pays qui a accueilli des anciens nazis à bras ouverts. Et ici, il est dit, eh bien, non seulement, alors, ce n'est pas oublier dans le but de haïr. Moi, il m'a fallu du temps pour aimer les Allemands. Il m'a fallu du temps. Et ce que j'avais entendu étant jeune, il m'a vraiment fallu du temps. Et j'ai dit, Seigneur, toi, tu peux aimer. Et on ne peut pas faire payer à une génération ce qu'une autre génération a fait. C'est tellement, pendant longtemps, l'Allemagne a empêché les jeunes Allemands de connaître leur histoire. Et pendant longtemps, en Pologne, et le guide nous disait aussi, eh bien, ça, c'était complètement passé sous couvert ce qui s'était passé en Pologne. Et puis, bah, il y a tout d'un coup des mémoires qui avaient été écrites par des gens qui avaient été dans ces camps ou par des survivants. Et puis tout d'un coup, bah, vous avez Internet et tout cela, et on n'arrive plus à cacher. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui essaient de nier. Il y a une espèce de vague de négationnisme qui essaie de nier l'histoire. Mais franchement, ça tient, c'est impossible de nier. Impossible de nier. Pourquoi ? Bah, parce qu'il y a trop de textes, trop de documents enregistrés, écrits, qui sont à la disposition de la planète entière. Mais souviens-toi, il ne s'agit pas d'avoir un sentiment de revanche, parce que, vous savez, notre pays n'est pas blanc, hein, dans le sens qu'il n'est pas... Il n'a pas toujours fait ce qu'il avait à faire. Donc, voilà, chaque pays a ses torts. Voilà. Mais ceci dit, et quand un pays veut nier son histoire... Eh bien, quel est le risque d'oublier ? C'est-à-dire, quel est le risque de ne pas faire quelque chose pour ne pas oublier ? Ben, c'est de répéter l'histoire. De répéter l'histoire, c'est le risque de laisser la porte aux négationnistes grande ouverte en disant, bon ben, voilà, vous pouvez raconter votre version. Et là, c'est ce qui se passe un peu là avec la Pologne. Elle essaie de raconter sa version. Mais il faut que ce pays accepte que ce qui s'est passé dans ses murs par lui, c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire. Même si Alors, vous savez, ça fait vraiment bizarre parce que, par exemple, on entend parler de Auschwitz, hein, on entend parler de... Alors, d'abord, vous allez voir un camp, peu importe l'ordre, hein, et puis ensuite, vous allez voir un autre, et vous passez de l'un à l'autre en bus. C'est un petit trajet de à peu près 10 minutes, c'est voilà. Bon, 10 minutes en bus, quand même, c'est assez long. Vous avez une autre photo, s'il vous plaît. Sauf que, quand on réalise qu'à vrai dire, aujourd'hui, on voit des maisons entre Auschwitz et Birkenau. On voit des maisons. Voilà. Alors, vous voyez l'étendue, mais à vrai dire, c'est 40 km carrés. De Nice, avant, il y en a 25 à peu près, 20-25. Hein? Voilà, Monaco ne fait que 2 km carrés. Donc 40 km carrés, juste, c'est ce que j'ai employé comme verbe, dédié à une extermination. Mais ça, c'est juste, c'est-à-dire que Auschwitz 1 et Birkenau, c'est un seul camp. Et il y en avait 40 partout répartis en Pologne. Donc, ils avaient cette vision aryenne qui est absolument démoniaque. Je n'ose pas imaginer l'atmosphère. Même aujourd'hui, je trouve qu'il y a une drôle d'atmosphère dans cette région-là. D'abord, je trouve qu'il n'y a pas de vie. On passe en allant de Cracovie jusqu'à Auschwitz et Birkenau. Ben, c'est difficile de trouver un magasin. Les seuls, on a vu des supérettes, on a vu des magasins, des vendeurs de voitures, des concessionnaires, des magasins, des garagistes. Mais je ne me souviens pas, par exemple, même dans la ville où on était, dans le quartier, je n'ai pas vu un boucher, par exemple. Bon. Deux boulangers, je me rappelle, avoir vu. Aujourd'hui, nous ici, il y en a à tous les. Il y a des cafés, mais des magasins de vêtements, j'en ai vu un, deux exactement. Mais en passant dans les villages, j'en ai vu aucun. Je suis sûre qu'ils plantent des fleurs dans leur jardin. J'ai vu deux endroits qui ressemblaient à des coopératives agricoles, vous savez, où ils vendaient, il y avait des fleurs qui étaient en vente. Mais ce que j'ai vu, peut-être que c'est à l'occasion de Pâques, je suis sûre qu'ils les ont ailleurs. Mais le seul endroit fleuri que j'ai vu, c'était les cimetières. Il y a un manque de beauté, il y a un manque, alors qu'il y a des maisons qui sont vraiment très entretenues, hein, dans les couleurs kaki, marron, jaune. Après, chacun ses goûts, hein. Mais il y a juste, il y a un manque de créativité, il y a une activité de la population. On ne sent pas la vie, on ne voit pas des gamins qui jouent de partout. Mais il y en a, je suis sûre. Mais on ne les voit pas. On ne voit pas beaucoup d'animaux, par exemple. Bon, évidemment, nous en France, c'est le paradis des animaux, hein. Mais bon, quand même, il y a juste une vie, un mouvement de la vie, ben, qui n'a pas été rétabli. Alors, c'est vrai que quand on entend que entre Auschwitz et Birkenau, c'était un seul même camp, les cendres. Alors, bon, il faut dire que ceux d'un camp voyaient les cheminées d'un autre camp, la fumée d'un autre camp qui montait, hein. Et aujourd'hui, ben, il y a des maisons qui ont été construites. Les Allemands ont essayé d'éradiquer l'épreuve, hein. Par exemple, dans une partie de la Pologne, ils ont planté beaucoup, beaucoup d'arbres à la place du camp, hein. Et puis, ici à Auschwitz, ils ont essayé de détruire des crématoriums. Bon, effectivement, on en a vu qui étaient détruits. Et comme ils avaient utilisé les briques des maisons, ils avaient exproprié des gens, ils avaient démoli les maisons, ils ont récupéré les briques pour construire le camp et pour construire les crématoriums. Quand ils ont détruit les crématoriums, qu'ont fait les habitants? Ils ont récupéré les briques et ils ont reconstruit. Et sur toute cette surface, alors non, mais c'est. Ah, je vous assure. Alors, à un moment, on était à Birkenau et tout d'un coup, on entend un chien. Moi, franchement, mon petit chien, il me plaît, quoi. Et mon petit York, Bisou, il me plaît. Mais là-bas, entendre un gros chien aboyer, c'est plus pareil. C'est juste. Tout prend une autre. voir ces maisons, mais c'était quoi? C'était des gens qui ont souffert. C'est une manière de réécrire l'histoire. Quand on déplace les bornes comme cela. Et puis, ben, des corps ont été brûlés, et puis brûlés. Et dans certains camps, ils ont été enterrés jusqu'à ce qu'ils se disent, ça ne va pas assez vite, et puis on risque de trop retrouver. Donc à un moment, ils ont brûlé. Qu'est-ce qu'on fait des cendres? Parce que ça va jusqu'au bout, cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on fait des cendres? Ben, y a la Vistule qui n'est pas loin, donc on en jette. Puis il y en a trop encore, donc qu'est-ce qu'on fait? On s'en sert d'engrais. Ou on répand dans les champs. Donc il y a des maisons qui sont quoi? Construites sur la mort. Ah, je vous assure, c'est juste... C'est-à-dire que la mort n'est pas honorée. Puis ça, c'est que dans la communauté juive, on voit que la mort est quelque chose qui ne doit pas déshumaniser. Là, c'était une machine pour déshumaniser l'être humain, mais lui retirer toute dignité, pire que des animaux. Alors bon, on va pas passer là, je vais pas passer toute la journée à vous raconter ce que j'ai appris. Il y a un film qui est, c'est pas un film, c'est un documentaire qui dure très très longtemps, 9 heures. Mais je vous recommande de le regarder. Il est fait avec beaucoup de pudeur. Il a été réalisé en 1985. Aujourd'hui, avec du recul, on le regarde et on se dit, eh bien, rappelez-vous, il y a un devoir de mémoire. Hein? La Bible dit, dans les textes, dans Deutéronome 25, la Bible dit au peuple juif, et nous, chrétiens, nous apprenons, c'est ce que la Bible dit, que ce qui est écrit, il a été écrit pour notre instruction. Il dit, rappelle-toi, c'est-à-dire ne laisse pas ce souvenir partir, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on ait de la haine, encore une fois, hein, parce qu'il y a la grâce de Dieu. Mais ensuite, rappelle-toi avec des actions. Et une des choses, vous pouvez regarder, et c'est Claude Lanzmann, L-A-N-Z-M-A-2-N. Claude Lanzmann, qui a interrogé pas mal de personnes, qui est allé sur les lieux, qui a interrogé des gens qui vivaient juste à côté des camps. Et il raconte quelles étaient leurs réactions quand des trains passaient, ou qu'est-ce qui s'est passé avec les maisons. Et puis, Claude Lanzmann, je trouve que c'est vraiment un réalisateur qui est impressionnant, parce qu'il pose des questions avec beaucoup de pudeur, sans jamais agresser, sans faire de commentaires arrogants, malsains, et qui pose une question jusqu'à ce que la personne crache vraiment le morceau. Donc moi, je vous invite à regarder ce documentaire. Vous allez sur YouTube et vous regardez. Shoah, tout simplement. S-H-O-A-H. 10h13, ok, alors ça dépend peut-être. Bon, à une heure près, je vous assure que... Donc, bah, évidemment, ne regardez pas ça en un... Mais une des raisons pour laquelle je me suis dit, je vais y aller. Maintenant, je sens que je suis prête. Hein. C'est parce que je me suis dit, nous sommes une église qui soutenons la communauté juive. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Et est-il possible de se dire ami d'Israël si on ne connaît pas leur histoire, ou si on ne connaît leur histoire que d'après les textes bibliques, ce qui est déjà pas mal, parce qu'au moins on connaît la pensée de Dieu vis-à-vis d'Israël. Donc ça, c'est bien. Mais une fois que l'on cherche à mettre les pieds dans leurs chaussures, et du coup ce que l'on entend, les craintes par exemple, ben, il faut comprendre pourquoi jusqu'à aujourd'hui la communauté juive en général, est mal à l'aise avec les chrétiens. Parce que l'Allemagne, ce n'était pas un pays musulman, les amis. Un pays chrétien. Les églises n'ont pas pris position. Très peu, il y en a eu. Hein, il y en a eu. Quand, vous savez, on ne peut jamais être complètement absolu dans ce que l'on dit. Il y a toujours eu des Polonais. Je crois qu'il y a 6700 Polonais qui ont été reconnus justes. C'est-à-dire qui ont participé à, au sauvetage des Juifs qui en ont caché, qui les ont nourris, qui les ont aidés à s'évader, etc. 6700. Et cela, il faut rendre hommage à, l'armée, à la mémoire. En France, il y a beaucoup de Français qui ont aidé des Juifs à passer, par exemple, en Espagne ou à s'enfuir par la mer. Hein. Mais en tout cas, il est nécessaire que l'on se rappelle pourquoi ? Hein ? Parce qu'une seule personne peut faire la différence. Hitler ne l'a-t-il pas fait ? De la même manière, une seule personne bonne peut faire la différence. Ensuite, ne rien faire est un acte de complicité. Et là, en général, l'Église ne comprend pas le poids de la responsabilité qu'elle a portée à ce moment-là. Et c'est une des raisons qui m'a motivée à faire cette journée au AV Israël, que l'on fait tous les ans. C'était parce qu'il était impossible de ne rien faire après qu'il y ait eu ce massacre à l'école de Toulouse et qu'ensuite il y a eu ce jeune Halimi qui a été torturé et qui en est mort uniquement que parce qu'il était juif. Alors évidemment, on parle des juifs, mais je dois dire que pour n'importe quelle horreur, pour n'importe quelle partie de la population, j'aurais le même genre de réaction. Ensuite, troisièmement, pourquoi se souvenir ? Eh bien, des raisons de se souvenir, je dirais. Eh bien, croyons qu'aux informations que nous lisons de sources fiables. Donc, assurons-nous des sources. Croyons aux menaces des tyrans. Ça, c'est quelque chose qui m'étonne. Combien de chefs d'État croient aux menaces des dirigeants iraniens? Ahmadinejad a dit clairement qu'il voulait exterminer tous les Juifs et qu'il voulait que ce pays soit un pays musulman. Il l'a dit clairement. Et puis, il y a eu son histoire de centrale nucléaire et il y a eu un embargo, d'accord ? Non, si vous continuez à faire progresser ce projet nucléaire, eh bien, nous ne traiterons plus avec vous et nous allons fermer les portes financièrement, économiquement et intellectuellement parlant. Bof ! Il s'est dit, c'est pas grave, on continue quand même. Et aujourd'hui, eh bien... plus que jamais, ils sont prêts à mener à bien leur projet. Pourquoi personne ne croit à ce que ces tyrans disent ? Ça, c'est... Donc, ce souvenir nous rappelle que les tyrans, les dictateurs qui ont des intentions mauvaises et qui les disent à l'avance, c'est parce qu'ils ont l'intention de les mettre à exécution dès qu'ils en auront la possibilité. Également, pourquoi se souvenir ? Parce qu'on se souvient que le destin de tous les Juifs est extrêmement lié aux textes bibliques et aux prophéties. Donc, la Bible nous dit que nous, en tant que chrétiens, nous avons une dette de reconnaissance envers Israël. Eh bien, en se souvenant, c'est une manière de payer. Mais pas simplement en se souvenant, en se rappelant, c'est en se souvenant et en se le rappelant avec des actions concrètes. Et puis dernièrement, c'était la raison que je vous disais tout à l'heure, c'est parce que si on se dit ami d'Israël, alors il faut accepter de connaître ce qui s'est passé dans notre histoire contemporaine. Et leur montrer, la Bible nous dit que c'est par l'amour que nous avons que l'on reconnaîtra que nous sommes des disciples de Christ. Et quand nous exprimons notre amour, là il y a les 70 ans d'Israël, il y a différentes... cérémonies qui sont prévues, moi je vous encourage à vous y rendre et à vous réjouir avec la communauté juive de ce que le pays d'Israël est bien délimité sur cette planète. Et oui, ils doivent se rappeler que c'est la terre qui leur a été donnée. Donc voilà, ça c'est un concentré. Tu as deux mots à dire ? C'est pas possible. Mais je suis sûre qu'elle a, hein, mais bon, elle nous le dira à un autre moment. Mais j'ai essayé de dire... Il y a une espèce de tristesse qui reste là, parce que c'est difficile de sortir de ces 3 jours et demi. Hein, d'avoir entendu tout ça, et puis bon, on continue à lire, parce que dans la... autant continuer à lire et à s'informer. Et, mais c'est... Oh, quand je pensais à ça, j'ai dit, Seigneur, c'est pas simplement d'être bon d'être vivant. Et puis quand je suis rentrée à la maison, et ah, mon lit est confortable, ma chambre est confortable, j'ai pas peur de traverser un champ avec une bombe, de sauter sur une bombe, j'ai pas peur qu'on vienne m'arrêter parce que je suis chrétienne, j'ai pas peur qu'aucun enfant de cette église soit enlevé à ses parents, parce que je pensais, oh là, je peux vous dire, j'ai pensé aux enfants de l'église, hein. Et j'ai pas peur, je suis en paix. Et c'est bon de dire, Seigneur, merci. Mais je crois aussi que quand il y a un acte antisémite qui est commis, eh bien, les chrétiens doivent se lever. Quand il y a eu « Je suis Charlie », et oui, d'accord, ok, on a vu, tout le monde se rappelle de « Je suis Charlie », il y avait juste quelques-uns qui disaient « Je suis juif » à cause de l'hypercacher, ce qui s'était passé. Très peu. Et je pense que ceux qui avaient cette pancarte-là l'avaient parce qu'ils l'étaient. Combien de chrétiens auraient dû prendre une pancarte et dire « je le suis » ? Donc ça, il y a le fait de se rappeler par des actions. Et moi, je crois que Église, la bonne nouvelle, ben, ça, vous savez, c'est pas pour rien si le Seigneur nous a envoyés là-bas. Ça n'est juste pas pour rien. Et ce que nous comprenons d'Israël, c'est vraiment un mandat qui est placé sur nous. Et moi, je crois qu'on va être là où le Seigneur nous veut, on va faire ce que le Seigneur nous veut. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que si on organise un voyage à Cracovie, pour ne pas dire Auschwitz, Birkenau, vous viendrez? Hein? Et on prendra le temps de se préparer. Alors, le Conseil général organise des voyages pour des élèves, hein, de Nice. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Alors, ils font la journée, le voyage en un jour. Oh, c'est-à-dire qu'à 6 heures du matin, ils sont dans l'avion, ils arrivent à pas d'heure. Et puis, tout de suite, ils vont visiter un camp. Ils déjeunent rapidement, ils vont visiter un autre. Je pense que ce qu'ils doivent manger doit leur rester un petit peu sur l'embouillie, comme on dit ici. Et ensuite, ils reviennent. Bon, bref, dans la journée, à minuit, ils sont de retour à Nice. Mais moi, je préférerais qu'on fasse autrement. Donc, commencez à vous préparer financièrement. Aller en Israël, hein, ça, c'est aussi un voyage auquel on est en train d'y penser. Donc, commencez à faire votre confession de foi, à déclarer, Seigneur, envoie-moi, invite-moi à aller en Israël, invite-moi à aller à Auschwitz. Ça semble bizarre, mais Israël prend une toute autre dimension. Mais nous, l'Église, on est bénis. On est bénis. Et quand on... Alors, avant d'aller... Le Seigneur a utilisé chaque minute de ces 3 dernières semaines, je veux dire, de manière extraordinaire. Et puis, il se trouve qu'on a eu l'occasion, avec Florence à l'argent, d'aller rendre visite à 2 dames juste avant de partir, le lundi après la conférence, donc on partait le mardi. Et il y avait une dame qui avait été une enfant cachée. Juste, ses parents étaient en Allemagne, ils ont eu le temps de sortir, de cacher les enfants. Eux-mêmes, juifs, se sont engagés dans la résistance en France, du côté de Tarbes. Donc, elle nous a raconté son enfance d'enfant caché, parce qu'elle était juive. Et puis, il y a sa meilleure amie qui l'a rejointe et qui, elle, nous a raconté qu'elle est juive, mais son mari avait 9 ans quand la famille a commencé à être déporté. Lui, il a su qu'il devait partir, qu'il devait se cacher. Et du haut de ses 9 ans, eh bien, il s'est rendu, il a fait je ne sais plus combien de kilomètres à pied dans la forêt, donc lui était en Pologne, pour aller se cacher en Russie, parce qu'à l'époque, la Russie ouvrait ses portes aux Juifs. Et ensuite, elle les a fermées. Et du haut de ses 9 ans, il s'est retrouvé seul dans une grande forêt de sapins. On les a traversées, ces forêts. Une grande forêt de sapins, en entendant les chiens aboyer. Bon, le Seigneur l'a préservé d'une manière absolument miraculeuse. Mais ce témoignage que l'on a entendu de ces deux femmes-là, ça, c'était vraiment quelque chose. Moi, j'aimerais qu'un jour, on puisse faire venir peut-être un survivant. Il en reste peu, hein. Faire venir ici et lui demander de témoigner. C'est quelque chose que vous aimeriez entendre le cœur. Je suis allée en Israël et puis j'ai vu des survivants. Je vous assure, vous ne voyez pas la tristesse. J'en ai vu qui chantaient dans une chorale, tout content, tout joyeux, tout. Waouh ! Mes amis, nous n'avons pas de raison de nous plaindre. Hein ? Alors, c'est un privilège que le Seigneur nous donne de connaître ces choses à nous, Église, la bonne nouvelle. De comprendre le plan de Dieu pour Israël à la fin de ces jours. Et, vraiment, je suis reconnaissante. Je ne voudrais pas passer à côté de ce que nous savons. Alors, écoutez, moi, je vous propose que nous apportions nos offrandes au Seigneur.